qu'un quart des personnes LGBT disent avoir été victimes de moqueries ou d'insultes dans le cadre professionnel. Et la moitié des gays, lesbiennes, bi et trans choisissent du coup de taire leur orientation sexuelle sur le lieu de travail. Les enjeux sont de toute nature, sociaux, juridiques, gestion de ressources humaines également dans l'entreprise. Et on va en parler avec nos invités. Mais d'abord, ce que vivent ces salariés. C'est un reportage de Valentin Dunat.
Arnaud, 52 ans, est commercial. Dans sa nouvelle entreprise, il a fait le choix de taire son homosexualité.
Parce que j'ai ressenti qu'il pourrait y avoir avec quelques personnes des difficultés, des jugements.
Il faut dire qu'Arnaud a de mauvais souvenirs en la matière il y a quelques années dans une autre entreprise.
J'ai eu un collègue homophobe ou idiot qui avait des propos à mon encontre assez désobligeants. Tiens, voilà le petit PD. Et puis un jour, je vais boire un café avec le responsable de l'atelier et cette personne me dit « Tiens, tu vas boire un café avec ta femelle ». Et là, je le prends très très mal. Il s'en est excusé et puis voilà, après les choses allaient mieux. Mais ça a été compliqué.
Conséquence de tout cela, Arnaud botte en touche désormais. C'est ce qu'a longtemps fait Oscar, 31 ans, qui travaille pour une multinationale. À chaque retour de week-end à la machine à café, il trouvait une parade pour éviter de dévoiler son orientation sexuelle.
J'utilisais des prénoms, unisex.
Dominique.
Voilà, exactement. Du coup, il savait pas si je parlais des mecs ou des nanas.
Une fois intégré dans son entreprise, Oscar a fini par dire la vérité.
C'est un peu comme si on devait avoir deux personnalités différentes, ma personnalité au travail, le mec sérieux, machin, et le vrai moi, alors qu'en réalité, c'est la même personne.
L'entreprise a également un rôle très important à jouer, c'est ce que pense Carole Santo, elle qui n'a jamais caché être lesbienne, est directrice artistique et pédagogique d'une société de communication qui accompagne justement les entreprises sur ces questions.
Il y a une forme de déni, c'est que, vous savez, nous on n'est pas contre, hein, mais chez nous, il n'y en a pas. Donc on n'entraîne pas des actions de communication, mais à partir du moment où les actions de communication elles sont lancées, les personnes se trouveront dans un écrin rassurant et se diront voilà, je peux travailler en toute sécurité. Et l'entreprise, du coup, ne se passera pas de mon talent.
C'est donc le climat dans l'entreprise qui permet à chacun de dire et d'affirmer ou non quelle est son identité, sachant que selon ce baromètre, 30% des personnes interrogées déclarent mal vivre le fait de ne pas être visible.
Effectivement, mal être dans l'entreprise qui n'est pas toujours, je reprends votre expression, un écrin rassurant. On va voir ça avec nos invités. Bonjour Sylvia Romanescu.
Bonjour à tous.
Vous êtes avocate spécialiste des discriminations au cabinet Franklin. Bonjour. Bonjour à vous également Céline Verzelletti.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale de la CGT en charge de ces questions de discrimination. Est-ce qu'on est, Céline Verzelletti, dans quelque chose qui reste un peu tabou? On parle de beaucoup de discrimination. Celle-là, on a l'impression qu'elle est un peu tabou.
Ben, en tout cas, c'est vrai qu'on en parle peut-être moins, parce que tout ce qui touche en effet à l'identité de genre, l'orientation sexuelle, ça peut être un sujet tabou. Moi, je pense que justement, il faudrait en parler beaucoup plus, parce qu'en effet, et l'enquête le montre, hein, mais il y a d'autres statistiques qui le démontrent aussi, il y a beaucoup de souffrances derrière ces fortes discriminations, parce qu'en plus ces discriminations, elles sont très importantes sur les lieux de travail et je dois dire qu'il me semble que elles devraient justement plutôt s'amoindrir, et c'est absolument pas le cas. Donc je pense que oui, il faudrait en parler beaucoup plus, et en tout cas lorsqu'on veut combattre les discriminations et lorsqu'on veut travailler sur la prévention, il faut à mon avis, le passage obligé, c'est bien les rendre visibles, ces discriminations. Parce que si on ne les rend pas visibles, c'est quand même très compliqué après de mettre en place justement soit des actions pour la prévention ou soit pour protéger toutes ces discriminations. Mais en effet, le premier des points, c'est bien de les rendre visibles.
C'est ce qu'on fait justement aujourd'hui. Et avant de voir les actions, les mots, quels sont les mots qu'il faut employer d'ailleurs, Sylvia Romanescu? Est-ce que c'est de la discrimination ou est-ce que ça ressort juridiquement de cas de harcèlement d'une certaine manière?
Alors, ça peut être les deux, effectivement. Ça dépend qui est l'auteur de ces faits, puisque tout le monde voit l'employeur comme le seul responsable de la discrimination, parce qu'on parle souvent des mesures disciplinaires qui sont prises donc par l'employeur ou par le manager en l'occurrence, et qui sont basées sur des faits discriminatoires, sur des motifs discriminatoires, en l'occurrence l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle. Mais en revanche, on peut également être dans le cas d'un climat au travail qui est assez tendu et les salariés se trouvent.
Là, dans le reportage, c'était collègues de bureau, voilà.
Oui,
c'est... Donc
dans
là,
ce
c'est quoi
cas-là,
c'est harcèlement,
c'est quel est le... C'est plutôt à l'employeur de prendre. Il est toujours responsable dans le sens où il est obligé d'assurer la sécurité des travailleurs au lieu du travail. Ça veut dire s'il entend ce genre de situation se passer au sein de son entreprise, il ne doit pas rester neutre. Il doit prendre des mesures et cela très rapidement, sinon il peut être condamné pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et pour faire cesser cette situation qui relève donc de harcèlement.
On parle de la discrimination. Vous avez beaucoup de dossiers.
Alors malheureusement, il y en a pas beaucoup et ça m'étonne pas puisque bien sûr l'interdiction de discriminer existe depuis longue date. Mais en ce qui concerne la discrimination sur l'orientation sexuelle, cela est assez récent dans la mesure où il a été introduite dans la législation française uniquement en 2001. Et en ce qui concerne l'identité sexuelle, donc les personnes trans, en l'occurrence, cela date de 2012. C'est donc assez récent. Il n'y a pas beaucoup de cas puisque les personnes se sentent un peu dissuadées par toutes les formalités, l'aléa judiciaire, etc. Et c'est aussi une question de qu'est-ce que le salarié peut obtenir en justice, parce qu'évidemment il y a des sanctions qui sont très lourdes, qui sont également d'ordre pénal dans la mesure où c'est sanctionné par une amende de 45 000 euros et 3 ans d'emprisonnement. Il y a également des préjudices qui peuvent être octroyés aux salariés et on peut aller de 8 000 euros jusqu'à 300 000 euros et c'était le cas récemment d'une banque qui a été condamnée à 300 euros de dommages et intérêts. Mais en fin de compte, le salarié n'est pas assuré de pouvoir être indemnisé pour le préjudice qui est souvent moral, donc difficile d'apprécier et de quantifier, indemniser.
Il y a, je crois, Céline Verzelletti, une charte de l'inclusion dans l'entreprise. Alors, toutes les entreprises ne l'ont pas adoptée, mais est-ce que ça suffit, une charte?
Ah non, nous pensons que ça ne suffit pas parce que c'est vrai que finalement la charte ça ne donne, enfin même si en effet et vous l'avez dit tout à l'heure, l'employeur il a une obligation de toute manière hein, dans les entreprises il a l'obligation d'apporter protection à ses salariés donc et si justement il ne n'assure pas cette protection là c'est lui qui en est coupable hein, en fait. C'est... Mais après, nous, ce que nous pensons, et c'est là où peut intervenir l'organisation syndicale, et c'est d'ailleurs son rôle central, je pense qu'il est là aussi, c'est justement dans le droit à la négociation collective. Le gros potentiel de l'action syndicale, elle est là. Hein, c'est-à-dire que d'ailleurs, seuls les syndicats ou les délégués syndicaux sont habilités justement à conduire ces négociations collectives. Et là, normalement, ces négociations collectives, elles doivent pouvoir aboutir à des accords ou à des conventions, ça dépend, alors soit au niveau de l'entreprise, enfin, soit au niveau de la branche ou au niveau national. Mais là, justement, lorsqu'on arrive à des accords, ce sont donc des obligations qu'on peut obtenir et c'est davantage contraignant, en tout cas pour l'employeur, une simple charte ou un simple plan d'action. Et par l'intermédiaire justement de ces négociations et de ces accords, d'une part, on peut obtenir donc certaines règles, certaines mesures.
Certaines avancées, désolé, je vous coupe. Parler ou pas de son identité sexuelle au travail, ne pas le faire par peur des conséquences, on continue donc de commenter ce sondage réalisé pour l'association LGBT L'Autre Cercle. On voit bien que ça concerne l'ensemble de l'entreprise et les DRH. L'association nationale des DRH en est bien consciente. Sa présidente Audrey Richard dit sur France Info que la situation en France reste catastrophique sur ce sujet dans les entreprises. Et voici le genre d'action qu'elle propose.
Alors les entreprises sensibilisées sur ces sujets-là, elles ont pris en main ces problématiques et ont organisé des formations ou des sensibilisations pour les managers. Donc on voit que
il peut y avoir un appui à chercher auprès de référents.
Oui, alors former déjà les managers et le top management a son effet, on le voit dans les entreprises, mais également former les partenaires sociaux, les RH bien évidemment et les collaborateurs. Donc ça peut être soit de la formation, soit de la sensibilisation et comme vous le dites exactement, mettre en place des référents diversité a également son effet. Alors on peut le voir plutôt dans les grosses entreprises, mais dans les PME, TPE, les engagements peuvent être également forts sur l'inclusion des personnes LGBT.
Voilà, formation et ça part aussi des managers. Sylvia Romanescu, vous qui êtes avocate spécialisée dans ces questions-là, effectivement, le management, c'est essentiel là-dedans.
Absolument, sauf que ça suffit pas, comme ça a déjà été dit. La charte n'a pas de force contraignante. Les formations, certes, servent à sensibiliser les gens, mais on ne peut pas empêcher les gens de se parler. Il y a les événements qui sont dans le cadre du travail, mais qui ne concernent pas directement le lieu du travail, tels que les after work, etc. Les gens se sentent discriminés, alors même que
les réseaux sociaux, possiblement aussi. Hein.
Et également, effectivement. Donc, il y a toute une série de mesures qui a été mise en place et un arsenal d'armes mis à disposition des salariés, mais il s'avère assez peu efficace. Et également, la tendance qui est maintenant de name and shame, de pointer du doigt les sociétés qui se prêtent à ce genre de faits discriminatoires, mais qui restent à nouveau assez peu efficaces.
Donc la solution, elle est où?
La solution,
c'est des espérances que vous nous dites.
La solution, c'est le dialogue social, effectivement, joue un rôle très important. Et après, je pense que c'est une question qui est basée aussi sur la psychologie des gens et donc l'ouverture de l'esprit. Donc
oui, un reflet de la société dans son ensemble.
Exactement.
Céline Verzelletti, formation, disait cette DRH. Les syndicats, vous avez l'impression que vous avez besoin de formation sur ces sujets-là ou d'être suffisamment outillés?
Mais écoutez, en tout cas, nous, à la CGT, on dispense aussi des formations pour nos syndicats et nos militants sur les questions, justement, de discrimination des personnes LGBT. On a d'ailleurs aussi un collectif confédéral, justement, pour travailler des outils. On a élaboré un guide pour nos militants et nos syndicats, un guide, justement, pour gagner l'égalité des droits des LGBT dans le monde du travail. Donc, des formations. Oui, bien évidemment, c'est utile parce que nous, on a aussi un certain nombre de militants et militantes qui ne savent pas justement qu'est-ce qu'ils peuvent activer, comment ils peuvent agir justement pour
empêcher
ces discriminations. Et après aussi, et vous l'avez dit, par le biais des négociations collectives, acquérir de nouveaux droits. Mais aussi, il faut sensibiliser. Et en effet, alors nous, on a beaucoup de tâches, nous, parce que d'une part, il faut toujours qu'on rappelle l'employeur à ses devoirs et à ses obligations, parce que très généralement, l'employeur oublie ses obligations. Donc nous, on est là pour leur dire vous avez légalement, vous devez apporter protection, vous devez sensibiliser les uns les autres, vous devez mettre en place des mesures très concrètes pour qu'il n'y ait pas ces discriminations. Ensuite, nous, on a donc à essayer de mettre en place justement des accords pour gagner du droit, et après à protéger, à écouter justement les salariés qui sont victimes de ces discriminations. Donc ça fait beaucoup de choses, mais en effet c'est essentiel, et je pense que voilà, après on peut se le dire, c'est pour ça que nous on forme beaucoup aussi nos militants et nos organisations syndicales. On le fait pas certainement suffisamment, parce que quand en effet on voit les résultats par exemple de cette enquête, alors il y a les discriminations, mais quand vous voyez que la moitié donc des personnes LGBT taisent leur orientation sexuelle et sont obligées soit finalement de se taire sur leur vie privée, soit voire de mentir, c'est quand même énorme qu'à l'heure actuelle encore la moitié des personnes soient obligées justement de ne pas révéler la réalité, parce qu'ils savent très bien qu'autrement ils auront beaucoup de difficultés à tous les niveaux, d'ailleurs.
Pour avoir la paix, d'une certaine manière, en tout cas, c'est ce qu'ils font. Et ça a des conséquences, Sylvia Romanescu, très concrètes, quand on ne parle pas de ce qu'est sa vie personnelle, son conjoint, de quel couple on fait partie, pour tout ce qui est vacances, organisation dans l'entreprise, ça peut avoir des traductions aussi.
Oui, effectivement, il y a toute une série de mesures qui sont destinées à la vie familiale, et donc, effectivement, si le salarié décide de ne pas faire valoir cet aspect-là de sa vie privée, il peut être donc dissuader de participer à des événements mis en place par le CSE en l'occurrence. C'est la tendance de s'élargir un petit peu, dans la mesure où par exemple le congé parental depuis déjà un certain nombre d'années est également ouvert pour les conjoints des personnes qui sont dans la communauté de LGBT.
Oui, mais si on ne dit pas qu'on est
effectivement, ça peut avoir des répercussions sur la vie sociale et dans l'entreprise.
Et ben on voit bien toutes les implications que ça a. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux.
Merci
Sylvia Romanescu, avocate, Céline Verzelletti, responsable discrimination au sein de la CGT.